Ce matin, notre temps de méditation est intitulé « Fidèle, fidèle, quoi qu'il en coûte ». Pierre a déjà prié. Et je dis en introduction que l'apôtre Paul a écrit aux croyants de Rome, dans Romains chapitre 12, je vous lis, ne cherchez pas, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que nous offrions notre corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant, saint, agréable à lui. Et nous sommes placés, cette exhortation des Saintes Écritures nous place devant une alternative. Soit nous nous conformons au siècle présent, soit nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence. Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont fidèles quoi qu'il en coûte. Le chapitre 3 de Daniel que nous allons examiner ce matin raconte l'histoire de trois hommes qui décident de rester fidèles à Dieu, quoi qu'il en coûte. Plaire à Dieu est plus important que leur propre vie. Nous avons vu au chapitre précédent qu'un petit groupe de personnes continue de vivre pour Dieu malgré l'hostilité du monde dans lequel ils vivent. Et Dieu prend soin d'eux d'une façon particulière. Ce chapitre 3 nous apprend que Dieu prend plaisir en la fidélité de ses enfants. Dieu est avec nous dans les situations les plus complexes, les plus difficiles. Nous pouvons être fidèles, quoi qu'il en coûte, parce que Dieu, lui, est fidèle et tout-puissant. Lisons ensemble ce chapitre 3 de Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornebuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne m'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. C'est une histoire que les enfants de l'école du dimanche connaissent bien, avec celle de David et Goliath. C'est une histoire que peut-être nous connaissons aussi si nous sommes croyants, mais est-ce que nous en voyons la portée encore aujourd'hui? Ça reste souvent des histoires pour les enfants, alors que c'est des histoires pour les croyants de tout âge. Enfants, moins jeunes et plus jeunes, plus âgés. Elles nous parlent de choses complètement actuelles. Est-ce que nous sommes prêts à être fidèles, quoi qu'il en coûte? C'est la question que la parole nous pose ce matin. Eh bien, regardons de près ce passage, ce chapitre 3, et nous voyons tout d'abord des versets 1 à 7, qu'il est question d'une statue d'or qui est dressée par Nebuchadnezzar devant laquelle il faut se prosterner et qu'il faut adorer. Le verset 5 dit « Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » La statue, verset 1, avait des dimensions impressionnantes, 30 mètres de haut, à peu près un immeuble de 8 étages, et seulement 3 mètres de large. Alors, elle nous a dit que cette statue était d'or, mais en fait elle n'était pas entièrement d'or, elle était simplement recouverte d'or parce que ses dimensions ne permettaient pas à une statue d'or d'être stable. Nebuchadnezzar avait conquis beaucoup de pays et avoir de l'or et des biens, des pierres précieuses n'était pas un problème pour lui. On se rappelle qu'au chapitre 2, Nebuchadnezzar avait fait un rêve dans lequel il avait vu une statue, il était troublé. Il avait demandé aux spécialistes de la cour, astrologues, devins et autres personnes spécialisées dans l'affaire, de lui donner la signification de son rêve. D'abord de lui donner le rêve, puis la signification. Personne n'était arrivé. Et Daniel avait prié l'Éternel, il avait demandé à ses compagnons aussi, Shadrach, Meshach et Abednego, de prier l'Éternel afin que Dieu leur révèle le secret du roi. Et le secret a été révélé. Et au chapitre 2, verset tout à côté, verset, on peut regarder, 31, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. » Et Daniel donne donc l'explication qui avait troublé le roi, avant bien sûr le chapitre 3. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les habitants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Voilà. Alors, il a reçu l'explication du songe, et il était la tête d'or. L'or, le métal le plus précieux, il était la tête. Et Dieu lui avait donné la domination sur les hommes et les animaux. Et puis, il faut aussi savoir que le règne de Nebuchadnezzar a été couronné d'un succès à bien des titres, aussi bien du point de vue militaire que du point de vue politique. Il a eu de grands projets de construction, vastes et grandioses, et qui ont permis à la gloire de Babylone d'atteindre son apogée. Il est donc possible que l'orgueil du roi l'ait poussé à concrétiser son rêve, et ne pas seulement construire une tête d'or, mais une statue d'or qui le magnifiait, qui glorifiait Babylone. Et on se rappelle qu'à ce moment-là, Babylone régnait sur une bonne partie du monde. Une fois la statue d'or mise en place, on procède à sa dédicace, et c'est ce que nous lisons au verset 2 et 3. Et au verset 2, 8 catégories de fonctionnaires sont mentionnées. Le roi, verset 2, Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et cette liste, elle est mentionnée deux fois, au verset 2, au verset 3 et partiellement au verset 27. C'est pour montrer quand même l'importance de ces personnes. Il y avait là tous les responsables politiques, tous les hommes haut placés, et à la tête, qui se trouvait à la tête de tout cela, eh bien sûr, le roi, l'empereur de toutes les nations. La statue devait, par cette répétition de cette liste, la statue devait symboliser l'empire et son unité sous l'autorité de Nebuchadnezzar. La dédicace avait une forte implication politique. La présence de toutes les autorités politiques du pays confirme l'idée que Nebuchadnezzar veut marquer sa domination politique sur tout le pays. Et le verset 4 nous apprend quelque chose de plus. La statue est dressée, il faut la dédicacer. Nous lisons verset 4. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Donc il y a un ordre qui est donné là au monde entier, parce qu'en fait, le héros crie à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » L'ordre est donné au monde entier parce que les responsables politiques qui sont là, les diverses autorités qui sont là, représentent les multiples ethnies et l'ensemble de la population de l'Empire. Et il était ordonné de se prosterner et d'adorer la statue, versets 5 à 7. Les fonctionnaires devaient non seulement se prosterner devant la statue, mais aussi l'adorer. Se prosterner peut avoir une portée politique, mais l'adorer, là, a une portée religieuse. Donc il y avait bien plus dans cette dédicace, il y avait bien plus qu'une signification politique, il y avait aussi une signification religieuse. Aucun dieu spécifique n'est mentionné. Nous n'avons pas lu qu'il a été question de Bel ou d'autres dieux de Babylone. Aucun dieu n'est mentionné. On peut déduire de cela que le roi ne cherchait pas à honorer les dieux de Babylone, mais qu'il instaurait une nouvelle forme d'adoration avec au centre ses statues. Et qui représentait ses statues? Eh bien, lui-même. Le roi voulait établir un gouvernement unifié et une religion commune. Il serait lui-même la tête de l'État et de la religion. Et on voit ça à la fin du verset 15, quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sommés de se prosterner et d'adorer, le roi leur dit « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Il s'est fait Dieu au-dessus des dieux. Et cette statue, s'adorer, l'adorer et se prosterner devant elle signifiait reconnaître que Nebuchadnezzar est Dieu. Alors, tous ceux qui servaient l'administration devaient reconnaître l'autorité à la fois politique et religieuse de Nebuchadnezzar et par là même l'ensemble des populations que ses fonctionnaires représentaient. Et pour marquer le caractère solennel de cet instant, il y avait un orchestre. Un orchestre avec un groupe de 7 instruments à vent et à cordes et en plus toutes sortes d'instruments de musique. Et la liste est reprise à 4 reprises, au verset 5, au verset 7, au verset 10, au verset 15, pour dire combien c'est important qu'on suive ce que Nebuchadnezzar voulait. C'était, d'ailleurs, il n'était pas possible de faire autrement. Le refus de se prosterner et d'adorer était puni de mort immédiate. Quiconque, verset 6, ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il n'y aurait pas eu de circonstances atténuantes, il n'y aurait pas eu de procès directos dans la fournaise. C'est à ce moment-là que vont entrer en scène les trois hommes fidèles à Dieu, quoi qu'il en coûte. Rappelez-vous, c'est soit on adore, soit on meurt. Et donc, les versets 8 à 18 nous parlent de cela. Verset 8, « À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Imaginez tout le monde qui se prosterne et qui adore et trois têtes qui restent debout, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais voilà, on perçoit bien sûr de la jalousie dans les propos de ces hommes chaldéens, parce que quand on était un pays soumis, en général, on n'accédait pas à des postes de haute autorité comme ont accédé Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le chapitre 1 qui nous dit ça. On a trouvé en eux de la sagesse bien plus que tous ceux qui étaient là. Dieu a permis qu'ils aient des postes élevés à Babylone. Voilà. On peut lire au verset 49, Daniel pria le roi, chapitre 2, de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Voilà des gens, des juifs, un peuple soumis et qui se retrouvent à une des positions bien plus élevées que ces chaldéens. Et voilà, ça suscite de la jalousie. Et alors, remarquez alors que pour ces hommes, se prosterner pour les hommes de Babylone, les représentants de la majorité des habitants de l'empire babylonien, cela ne pose aucun problème de se prosterner devant cette statue, même ceux originaires des pays conquis. Leurs dieux n'ont pas été assez puissants pour empêcher le roi Nebuchadnezzar de conquérir leur pays. Alors, il n'y a pas de problème pour eux de se prosterner. Il vaut mieux se rendre à l'évidence que, eh bien, les dieux de Babylone, et le roi Nebuchadnezzar en particulier, est puissant et on peut s'incliner devant lui. Se prosterner aussi devant l'idole ne pose pas de problème aux juifs exilés. Pourquoi? Parce que depuis des générations, ils désobéissent à Dieu en se livrant à l'idolâtrie. D'ailleurs, c'est pourquoi ils ont été déportés là. D'année après année, ils n'ont pas écouté les mises en garde des prophètes qui leur rappelaient la gravité de l'idolâtrie. On pouvait dire qu'ils avaient ça dans leur ADN. Alors pour eux, il n'y avait aucun scrupule de se prosterner devant la statue d'or. Pourquoi risquer la mort en refusant de faire ce qu'on a toujours fait depuis des années, n'est-ce pas? Des gens qui ont adoré Baal, Astarté, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, ils n'ont pas changé là, au risque de mourir. Continuons sur cette voie. Et puis, remarquez qu'il ne s'agit pas de grand-chose. Juste une courbette devant la statue, et tout est OK. Eh bien, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et donc, Nebuchadnezzar ne s'attend pas à ce que quelqu'un ne se prosterne pas et n'adore pas. Pour lui, c'est inimaginable. Puisque ça ne gêne personne, et ça ne blesse personne. Tout le monde s'incline, sauf ceux qui veulent rester fidèles, quel que soit ce que ça coûte, quoi qu'il en coûte. La marque de fidélité, justement, leur marque de fidélité, est précisément qu'ils refusent d'adorer un autre dieu. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, servir les plus importants d'aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute sa force, même au péril de sa vie. Ils ont refusé de se souiller quelque temps avant par les mains du roi, c'est pas maintenant qu'ils vont adorer une statue. Chapitre 1, verset 8. Ils ne vont pas maintenant se prosterner devant une statue d'or. Que les autres Spartans se prosternent s'ils veulent, si ça ne les gêne pas, mais eux, ils vont rester debout. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'était pas des paroles en l'air, ils ont vraiment, on les a vus. Ils ne se sont pas cachés. Un pasteur du 19e siècle écrivait: il ne vous sera pas permis de glisser tranquillement vers le paradis dans la présence de Jésus sans avoir eu une lutte à mener et une croix à porter. on doit se rappeler de ces paroles. Le monde nous presse à le rejoindre dans la pratique du péché, en répétant sans cesse, mais tout le monde le fait, tout le monde le fait. Pourquoi pas toi? Essaie juste un peu, juste une fois. Sexy, sun and sex. S'éclater, être in. Voilà. On pousse les gens à voler, à mentir, à tuer, à vivre une vie dissolue, à vivre le concubinage avant le mariage, à négliger les choses spirituelles, négliger le culte dominical. Et le monde a sa fournaise ardente, toute prête à accueillir ceux qui refusent d'adorer ses idoles. On va se moquer de vous. La fournaise ardente, c'est la plaisanterie. On va vous tourner en ridicule. Il y aura de l'exclusion, de la persécution, du mépris. En Occident, nous ne vivons pas ces choses d'une façon intense, mais les chrétiens d'autres pays qui veulent rester fidèles à Dieu, ils sont fidèles quoi qu'il en coûte. Ils perdent leurs biens, leur travail. Et au premier siècle, être chrétien, dire qu'on est chrétien, ça coûtait la vie. Surtout si t'es juif, vos familles ne voulaient plus de vous, vous perdiez votre travail, vous étiez mis au rebut de la société. C'était quelque chose de sérieux être chrétien. Aujourd'hui, la pression est à la fois forte et subtile. Et les jeunes comme les plus âgés sont soumis à cette pression du monde qui veut qu'on se plie à ses valeurs. Donc Romains chapitre 12, verset 22 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Regardons ce que 1 Jean dit aux croyants, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Fidèle, quoi qu'il en coûte. Alors on pourrait penser que c'est valable seulement pour les chrétiens mûrs, les chrétiens, mais c'est valable pour tous les chrétiens. Et on va voir un jeune chrétien qui s'appelle Timothée, 1 Timothée chapitre 6. Regardons cela. 1 Timothée chapitre 6. Où l'apôtre Paul fait mention de l'amour des richesses qui est la racine de tous les maux. Cette envie de toujours posséder beaucoup de choses. Et il va dire, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent, verset 6, verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et il dit à Timothée, Timothée était pourtant l'enfant spirituel de Paul, un homme reconnu par les chrétiens comme étant un chrétien de qualité. Il va dire, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà. Pourquoi faire cette recommandation à Timothée alors qu'il était déjà fondé dans la foi? Eh bien, on n'est jamais arrivé. Il faut toujours persévérer avec le Seigneur, tenir bon. Et regardez plus loin dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Les jeunes ont des passions. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On pourrait dire, Je suis une jeune croyante, tout ça, c'est pas encore pour moi. Plus tard, je vais faire les choses de Dieu. Pour l'instant, j'ai mon travail, mes études et tout cela. Non, non, non. Le sport, la musique et tout ça, mais non. L'apôtre Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pour les croyants de tous âges, de tous les âges, s'attacher aux choses de Dieu, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle est essentiel si on veut être fidèle quoi qu'il en coûte. Eh bien, ce petit reste d'Hébreu, ces trois hommes pour rester fidèles quoi qu'il en coûte. Pensez-vous, frères et sœurs, pensez-vous, chers amis, que Shadrach, Meshach et Abednego sont devenus fidèles tout à coup, devant cette statue, à ce moment-là? Pensez-vous que c'est devenu quelque chose d'instantané? Pas du tout. Parce que quand on regarde la vie de Daniel et de ses compagnons, on se rend compte que ils ont été amenés adolescents de Jérusalem jusqu'à Babylone. Mais Daniel a bénéficié de l'enseignement de l'époque du roi Josias, la moitié du roi Josias, et Josias a amené des réformes religieuses. Il a poussé le peuple à abandonner l'idolâtrie, accompagné bien sûr du prophète Jérémie. On peut dire, et quand on regarde la vie de Daniel et de ses compagnons, on peut dire qu'ils n'ont pas manqué d'être éprouvés. Leur foi n'a pas manqué d'être éprouvée. Cela a été salutaire, parce que justement, c'est au travers des épreuves que la foi s'est fortifiée. S'il n'y a pas d'épreuve et que tout roule, c'est pas comme ça qu'on va progresser. Dieu, si on doit progresser comme un enseignant, un entraîneur, il vous fait vous entraîner, mais à un moment, vos qualités sont testées. Et c'est ça l'épreuve. Eh bien, déjà, on peut discerner. Donc, ils sont partis, c'était des jeunes adolescents qui ont quitté, on les a amenés de force. Nebuchadnezzar les a amenés de force. La troisième année, au chapitre 1, verset 1, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra, je suis au chapitre 1 maintenant, verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils vivaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azania. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Miskaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Un voyage difficile, à peu près 1000 kilomètres, éprouvant, qui peut vous faire dire, oh là, Dieu c'est fini, hein. Alors là, plus de culte, plus de tout ça, c'est oublié maintenant. On va aller à Babylone, on va vivre comme tout le monde. Déjà, ils vivaient dans l'idolâtrie, hein, à Jérusalem, en Juda. Et là, maintenant, alors là, plus de maisons, plus de culte, tout cela, on va vivre comme les païens à Babylone. Eh bien, Daniel et ses compagnons n'ont pas fait comme ça. Déjà là, de toutes les façons, le voyage était éprouvant. Je pense qu'ils ont dû se rappeler ce qu'ils ont entendu dans leur enfance, les histoires qui ont été racontées, ce qu'avait fait Josias, ce que les prophètes avaient dit, comme Jérémie. Ils se sont attachés à ça, et pour tenir bon, ils ont dû aussi prier pendant ce voyage. Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, ils n'ont pas fait comme les autres. On lit au verset 8 du chapitre 1, donc il y avait déjà l'épreuve du voyage, leur foi a été éprouvée là. Il y avait aussi l'épreuve de l'assimilation, parce qu'on a essayé de les instruire dans toutes les sciences des Babyloniens. On a changé leur nom avec une connotation babylonienne, parce que leur nom a été changé, je l'expliquais déjà, hein, avec des noms qui rappellent les divinités de Babylone. Ils vont apprendre les langues, leur nom va être changé pour qu'ils oublient tout ce qui concerne Dieu. C'est le monde qui les sollicite. Et au verset 8, on dit « Daniel résolut ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. » Voilà encore, on a essayé donc épreuve du voyage, épreuve de l'assimilation, épreuve de la compromission. Eh bien, Daniel et ses compagnons disent « Non, non, on va rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte. On va pas suivre la tendance du moment. Tout le monde le fait ? Pas nous. Nous, on est fidèles à Dieu. » Et puis, on voit après, d'ailleurs, Dieu honore cela, parce qu'ils vont pas beaucoup manger, et je pense aussi, il nous a dit qu'il demande un régime de légumes. Pas pour la ligne, hein, mais parce qu'il y avait dans ces mets et ce vin du roi une forme d'idolâtrie. Il y avait peut-être aussi des animaux qui étaient sacrifiés avec encore leur sang. Donc, c'était pas conforme à ce qu'ils avaient appris. Donc, Daniel voyait dans cela une infidélité à Dieu. Donc, il résolut de ne pas se souiller. C'est pas dire, je vais le faire et puis ils ne le font pas. Non, non, non. Ils le font. Et Dieu honore cela parce que ils ont plus de sagesse et d'intelligence que tous les autres. Et puis, on voit aussi que il y a aussi l'épreuve de la mort une première fois parce que Nebuchadnezzar se songe. Il veut faire mourir tous les sages, tous les astrologues qui n'arrivent pas à lui dire le songe. Et Daniel, lui, avec sagesse, va voir à droite et à gauche Arjok, et il va voir ensuite le roi. Il demande du temps et il demande surtout à ses compagnons de prier avec lui. Et il prie et Dieu leur révèle le secret du roi. Et là encore, eh bien Daniel est éprouvé aussi, fidèle, quoi qu'il en coûte. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, c'est en Dieu qu'il se confie. C'est en Dieu qu'il se confie. Et quand on regarde le livre encore après, on voit que Daniel était un homme des Écritures. Daniel était un homme de prière. Même quand il était interdit de prier, eh bien, il continue à prier. On n'apprend pas ça comme ça, instantanément. On prend du temps. Dieu permet les épreuves, Dieu permet les choses dans notre vie pour que nous puissions progresser. C'est Spurgeon qui disait, une courge en 6 mois, ça pousse un chêne, il faut des années. Est-ce que vous voulez être une courge ou un chêne? Voilà. Et donc on voit que ce n'est pas instantanément que Daniel a été fidèle, mais il a appris avec le Seigneur. Il a fait de l'Éternel ses délices, depuis son enfance. Et toute situation était une occasion pour fortifier sa foi et s'attacher à son Dieu. Quelle promesse nous, chrétiens d'aujourd'hui, pouvons serrer dans nos cœurs pour que notre foi soit fortifiée dans le Seigneur et pas dans les circonstances, qu'on soit des hommes fidèles quoi qu'il en coûte. Eh bien, on peut prendre le psaume 139, verset 16. Il y en a beaucoup, mais quelques-uns, vous connaissez d'autres, voilà. Psaume 139, verset 16, pour placer sa confiance dans le Seigneur. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas mourir avant l'heure. Vos jours sont déjà inscrits avant même que vous existiez. Le Seigneur est fidèle. Et Matthieu chapitre 10, verset 30 dit que même nos cheveux sont comptés. Nous valons bien plus que les oiseaux ou que les herbes des champs. On peut prendre aussi le psaume 23, chapitre verset 1. Dieu, l'Éternel est, je ne manquerai de rien. Si nous sommes une brebis du Seigneur, l'Éternel est notre berger. C'est lui qui nous conduit. Il connaît notre vie. On peut prendre aussi Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservé, l'a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il ne nous est pas dit dans ces quelques versets de voir Abraham, Noé et tous les autres comme des héros, mais de plutôt voir ce qui a soutenu, qu'est-ce qui les a permis de faire ce qu'ils avaient à faire, ce qui leur a permis de faire ces choix qui dépassaient les circonstances, qui dépassaient la vue. C'était la foi en Dieu. C'est parce qu'ils avaient foi en Dieu qu'ils ont fait tous ces choix-là. Et il nous dit, ben voilà, vous avez une série de personnes qui rendent témoignage que vivre par la foi est possible. Et il nous dit, il nous demande, eux tous ont regardé au Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Vous aussi faites la même chose. David aussi. David avec Goliath. L'histoire de David et Goliath ne nous encourage pas à voir David comme un héros qu'il faut imiter, ou à chercher à spiritualiser des pierres, quelles sont nos cinq pierres ou quels sont nos géants. Dans l'histoire de David, nous apprenons que Dieu est fidèle, que Dieu est puissant et que c'est lui qui a fait gagner David. Alors, voilà, je reviens à mon histoire. Ces trois personnes sont fidèles quoi qu'il en coûte. Et donc, Nebuchadnezzar, voilà, ils ont été dénoncés à cause d'une jalousie. Et on voit que Nebuchadnezzar est furieux, verset suivant, verset 13 à 18. Nebuchadnezzar est furieux et leur demande des comptes. Et il dit au verset 15, « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Alors, ceci montre à nouveau, comme je l'ai dit, que Nebuchadnezzar voulait aussi bien être chef politique que chef religieux. Et la question n'était plus un conflit entre Shadrach, Meshach et Abednego, c'était un conflit entre Yahvé et Nebuchadnezzar. Alors, les trois compagnons, on peut lire cette phrase magnifique, verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Voilà. Shadrach, on donne à Shadrach et Meshach, c'était comme si on leur donnait une nouvelle chance. Écoutez, dites-moi ce que j'entends, est-ce que c'est bien vrai? Mais allez, je vous donne une autre chance, prosternez-vous devant ces statues. Et si vous ne prosternez pas, vous irez dans la fournaise. Shadrach et Meshach ne paniquent pas, ils ne sont pas là, ils n'essaient pas de se justifier, ils n'essaient pas de s'excuser, ils disent « Oui, ce que tu as entendu est bien vrai. » Et ils commencent à dire « Nous n'avons pas besoin de te répondre dessus, c'est la vérité, nous ne sommes pas prosternés. » Mais ils ajoutent verset 17 « Voici notre Dieu que nous servons. » Ils sont serviteurs de Dieu. Dieu est au-dessus de Nebuchadnezzar. C'est lui. Notre devoir, c'est de plaire à Dieu. Le reste, c'est ça, c'est son affaire. Nous, notre devoir, c'est de plaire à Dieu quoi qu'il en coûte. Nous sommes ses serviteurs. « Voici notre Dieu que nous servons. » Ils servent Dieu. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Dieu a le pouvoir puisqu'il est au-dessus de Nebuchadnezzar. C'est lui le Dieu tout-puissant. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Donc, Dieu a le pouvoir de faire ça. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne savent pas si c'est la volonté de Dieu qu'il soit délivré. Si c'est dans le plan de Dieu qu'il soit délivré. Donc, ils vont ajouter, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il leur dit en quelque sorte, obéir à Dieu, c'est notre devoir, c'est le plus important. C'est plus important que notre vie. Maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu de nous délivrer. Eh bien, on va lui obéir quand même, même au péril de notre vie. On ne va pas servir tes dieux d'une façon ou d'une autre, et surtout pas nous prosterner devant ta statue. Alors on voit, chapitre 19, le roi qui est rempli de fureur, il va demander qu'on chauffe 7 fois plus. Et le chiffre 7 représente une mesure complète, chauffer à bloc la fournaise, au point que ces vigoureux soldats qui ont amené, on n'a même pas le temps, parce que quand on vous jetait dans la fournaise, on enlevait vos vêtements et on vous jetait dans la fournaise. Mais l'ordre est tellement pressé que rapidement, on lit Shadrach, Meshach, Abednego, et les plus vigoureux soldats vont les jeter dans la fournaise. Mais la fournaise étant chauffée plus que de mesure, les soldats, eh bien, ils meurent, ils sont chauds, ils sont tués par la chaleur de la flamme. Et Abednego, eux, tombent dans la fournaise ardente. Et au verset 24, ils tombent mille liés dans la fournaise. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 24? Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva promptement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Voilà. Les liens, le feu a brûlé ceux qui ont voulu jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, mais les liens, le feu n'a brûlé que les liens, pas les vêtements, pas les cheveux. Ils ne sentent même pas la fumée, comme on lit au verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, pourtant combustibles, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, pourtant combustibles, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Voilà. La seule chose qu'a fait le feu, c'est de brûler leurs liens. Et frères et sœurs, l'épreuve que Dieu permet dans nos vies, c'est un peu ça. Brûler les liens qui nous rattachent au monde, pour que nous puissions marcher avec lui dans l'épreuve, que nous puissions marcher avec lui de sainteté en sainteté. Donc, recevons l'épreuve comme une grâce de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce d'accepter ce qu'il permet dans notre vie. Parce que les liens, des fois, nous attachent tellement au monde que Dieu est obligé de nous éprouver pour que ces liens brûlent et que nous puissions marcher dans la présence du Seigneur. Le Seigneur, frères et sœurs, peut nous délivrer de l'épreuve. Il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego, mais il ne le fera pas toujours. J'ai déjà lu dans... Ça a été le cas, rappelez-vous, Étienne a été lapidé. Mais dans l'épreuve, le Seigneur, il a vu le Seigneur debout dans le ciel. L'apôtre Paul a aussi une écharde. Dieu n'a pas enlevé l'écharde, mais il lui a donné sa grâce, parce que cette écharde lui a permis de ne pas s'orgueillir, de ne pas devenir orgueilleux à cause de toutes les révélations qu'il avait reçues de la part de Dieu. Dans les actes, on voit que Jacques a été tué par l'épée, mais Pierre a été délivré. Et Hébreux chapitre 10, 11-35 nous dit que certains n'ont pas été délivrés. Donc il y en a qui sont délivrés, Dieu peut nous délivrer, mais des fois, il ne le fait pas, et il sait pourquoi. Tout disciple du Seigneur est soumis à l'épreuve. Certaines peuvent ressembler à une véritable fournaise, tellement l'épreuve est dure. Reconnaissons-nous celui qui marche avec nous dans l'épreuve? Faisons-nous attention à notre Dieu qui est là, à côté de nous à ces moments. Lisons Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, versets 2 à 3. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. » Ces hommes ont été fidèles, quoi qu'il en coûte, le Seigneur était avec eux dans la fournaise, ils ont été délivrés non pas de l'épreuve, mais dans l'épreuve. Et des fois, Dieu permet aussi que nous passions dans l'épreuve, nous ne sommes pas délivrés comme ça, mais il est avec nous, il nous soutient. Et frères et sœurs, je pose une question. Est-ce que nous devons attendre des circonstances tragiques pour dire aux princes de ce monde, nous ne servirons pas tes dieux? Il y a dans notre monde occidental beaucoup de facilité, beaucoup de confort. Et nous ne sommes pas fidèles même dans les petites choses, comme l'ont été Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ils ont... Les petites choses, résolus de ne pas se souiller par les mets du roi, les petites choses, ils ont été après capables d'être fidèles devant la mort. N'attendons pas d'être éprouvés plus que mesure, n'attendons pas la persécution pour dire non, je veux être fidèle, je veux servir le Seigneur, je veux être persévérant dans ce qu'il me dit, je veux m'attacher à la parole, je veux faire de la parole de Dieu mes délices et sa volonté aussi mes délices. Et je veux, comme les disciples, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières. N'attendons pas des preuves plus grandes pour dire, eh bien, ah tiens, je serai à ce moment-là fidèle à Dieu. Commençons maintenant dans les petites choses. Et donc nous pouvons déjà affirmer ces choses. Nous ne servirons pas les dieux de ce monde. Et nos fournaises, et dans nos fournaises, nous découvrirons la présence du Seigneur. Prenons courage, frères et sœurs, parce que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que le Seigneur nous donne la grâce de méditer sa parole et de prendre notre part chacun et d'être comme ces hommes, fidèles, quoi qu'il en coûte, mais commençons déjà à être fidèles dans les petites choses. On va chanter juste une strophe du cantique en se mettant debout et je vais terminer par la prière. Numéro 408. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose ton amour pour moi. Pierre l'a rappelé ce matin. À moi tu t'es fait connaître et ta divine beauté a transformé tout mon être pour l'éternité.